succès contre toute attente et vous faites bien. En compagnie d'Edmond Moret, c'est le docteur Josiane Barnéou qui parle aujourd'hui de l'évolution de la médecine contemporaine. Nous savons que nos manières de penser influencent nécessairement nos comportements, mais avons-nous réalisé que nos comportements ont une énorme importance dans l'approche de la médecine actuelle? Nous rejoignons donc Josiane Barnéou et Edmond Moret.
Alors on observe actuellement qu'il y a des tendances sociales qui influencent les patients et le cours de la médecine. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes ?
Il est intéressant de noter que ce que nous voyons au niveau médical ou par exemple les maladies que nous allons voir ou ce qui se passe dans un service d'urgence est en fait l'expression de ce qui se passe au niveau d'une société. Et notre société à certaines tendances qui, indiscutablement, à l'heure actuelle, influencent les maladies ou les urgences que nous allons voir. Une des premières tendances, c'est le dérapage par rapport aux normes judéo-chrétiennes de notre société occidentale. Et disons que ce dérapage va se manifester essentiellement au niveau, par exemple, d'une nouvelle forme de sexualité avec promiscuité, au niveau des dépendances, au niveau d'une approche égoïste. Et ces approches-là, disons, vont avoir, au niveau médical, certains aspects.
Au niveau médical, certains aspects, mais au niveau émotionnel, les conséquences sont aussi au rendez-vous.
Au niveau émotionnel, les conséquences sont au rendez-vous. Si nous prenons, par exemple, les nouveaux comportements au niveau de la sexualité, disons que la situation, par exemple, d'adultère ou la situation de famille dysfonctionnelle ou vont avoir des conséquences au niveau, par exemple, des enfants et vont se traduire dans les générations qui viennent. Au niveau, par exemple, de la sexualité, le problème du viol, qui est quand même quelque chose qui est en augmentation, ou le problème de l'inceste, ont des conséquences qui sont extrêmement graves au niveau du devenir d'une personne, surtout si c'est un enfant.
On voit bien dans les émissions, notamment de télévision, ces forums consacrés à ce sujet, quel genre de dégâts énormes, ces comportements à risque ou malfaisants, quelles sont les conséquences occasionnées.
Ces comportements vont avoir des conséquences au niveau des personnes qui sont victimes, mais ces personnes qui sont victimes, si elles n'arrivent pas à travailler à leur guérison par rapport à ce passé qui est extrêmement douloureux, vont elles-mêmes amener au niveau de leurs enfants des problèmes de par leur manière de se comporter.
Toutes ces blessures physiques, morales, psychiques, sociales entrent aussi maintenant dans le domaine de la médecine.
Tout à fait. En tant que médecin, il est, je dirais, relativement fréquent. En tout cas, je suis frappée de voir que le nombre de personnes qui ont été soumises à un problème de viol ou un problème d'inceste ou un problème d'abus, quel que soit le type d'abus, semble être de plus en plus important. Alors, est-ce que c'est lié à la plus grande liberté qu'ont les gens de parler ? Mais dans une certaine mesure, je pense que cela correspond aussi à une réalité où ces problèmes-là sont en augmentation.
C'est pas simplement un accroissement de la sensibilité des victimes par rapport à ce qu'elles ont vécu, mais c'est aussi en quantité que ce genre de dommages s'étend.
Très probablement.
Vous parliez de dérapage moral et puis vous mentionniez en passant la question des dépendances. Pourriez-vous en dire quelques mots ?
Disons que la dépendance est un problème qui est surajouté à un autre problème. Et très souvent, ce que l'on peut dire, c'est que on se focalise sur la guérison de la dépendance, mais l'important, c'est de se concentrer sur l'origine de la dépendance. Pourquoi est-ce qu'une personne est arrivée à un comportement de dépendance ? Que ce soit par rapport à l'alcool, que ce soit par rapport au tabac, que ce soit par rapport à une drogue dure, par rapport à un médicament. En fait, le problème n'est pas réellement au niveau de la dépendance. Bien sûr, la dépendance a des conséquences au niveau médical, a des conséquences au niveau psychologique. Mais quel est le problème à l'origine ?
Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'avant d'avoir à constater des maladies physiques, il y a des maladies morales, des maladies psychiques, des maladies spirituelles, des maladies d'âme, comme on pourrait le dire sur un plan chrétien. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord des gens malades de vivre et qu'il faudrait peut-être traiter à ce niveau-là en priorité ?
Au niveau de notre société, il me semble qu'il y a deux facteurs, ou probablement beaucoup plus, mais il y a deux facteurs qui me semblent extrêmement importants et qui entraînent un mal de vivre. C'est le problème au niveau de la famille. Disons qu'à l'heure actuelle, de plus en plus, les familles sont brisées, ou nous avons des familles dysfonctionnelles. Et disons que cela a des conséquences au niveau des enfants. Et l'autre facteur, c'est que nous vivons dans une société où la compétition est extrêmement importante. Et nous devons être performants. Nous devons être le meilleur pour arriver à avoir une place.
Donc on devient individualiste aussi. Alors.
Nous devenons aussi individualistes. Disons que c'est un petit peu le meilleur qui gagne. Et actuellement, c'est quelque chose que l'on voit notamment dans les milieux professionnels où les personnes sont poussées jusqu'au bout, en fait, de leur capacité ou de leurs limites pour produire plus ou être le meilleur par rapport aux collègues pour avoir une promotion. Et je crois que ces types d'approches sont générateurs de passablement de désordre au niveau émotionnel et au niveau physique.
Est-ce que vous avez l'impression que le monde médical est armé pour aborder ces nouvelles situations sociales, personnelles des gens ?
Il semble qu'il y a une prise de conscience des conséquences de ce que les personnes vivent au niveau professionnel ou au niveau familial et des incidences que cela a au niveau médical. Mais très souvent, pour des raisons de temps, des raisons d'économie, ces prises en considération ne sont pas toujours effectuées.
Vous avez mentionné le fait qu'on pourrait être tenté de faire des économies. Or, c'est aussi un des grands problèmes de la médecine aujourd'hui, c'est ses coûts. Et comme les besoins, la palette des besoins s'élargit sans cesse, ça veut dire aussi que les coûts pour faire face à tout ne peuvent que s'accroître.
Oui, les coûts sont en train de s'accroître et au niveau de plusieurs pays, au niveau même, je dirais, au niveau mondial, en tout cas dans les pays développés, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à l'avenir de la médecine lié aux problèmes économiques. Est-ce que l'on est face à une médecine à deux vitesses ? Est-ce que simplement certaines personnes pourront être mieux traitées que d'autres ? Quand donner tel type de traitement à quelle personne, à partir de quel âge, avec quel type d'handicap, et ainsi de suite. Et nous sommes, disons, d'emblée maintenant face à des problèmes éthiques qui sont extrêmement importants.
Est-ce que sur ce plan de l'éthique, vous pensez que la croissance de la population joue un rôle ?
Alors disons que la croissance de la population, lorsqu'elle est resituée au niveau mondial, est un chiffre qui peut souvent être manipulé. Très souvent, il y a un scénario catastrophe disant « stoppons la croissance de la population parce que nous n'aurons pas assez pour nourrir la population ». En fait, le problème n'est pas réellement lié à d'un côté la production et d'un autre côté la population, mais le problème est lié au fait que les richesses, en fait, appartiennent, la plupart des richesses, 80% des richesses mondiales appartiennent à simplement 20% de la population. Et le problème n'est pas lié au niveau de la croissance de la population, mais réellement au niveau de la répartition des richesses.
C'est la peine de réfléchir à ces questions qui sont sous-jacentes. Ce que l'on évoque par rapport à la croissance de la population est un problème dans le tiers-monde, mais en tout cas pas dans nos sociétés occidentales. Dans nos sociétés occidentales, ce serait plus le problème du vieillissement qui poserait problème. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi en parler ?
Disons que le problème du vieillissement dans nos sociétés, bon, tout d'abord, j'aimerais nous amener à nous poser une question, est-ce que c'est réellement un problème ? C'est intéressant, lorsque vous travaillez dans d'autres cultures, notamment certaines cultures africaines, récemment j'étais au Tchad, et au Tchad, les personnes à cheveux blancs sont honorées. Et disons que nous avons parlé aussi du concept biblique, et dans la Bible, en fait, les personnes avec des cheveux blancs sont des personnes honorées. Dans notre culture, très souvent, ce qui est lié au problème du vieillissement est le problème économique. Les personnes âgées coûtent cher. Et c'est souvent le leitmotiv que nous entendons.
Mais pour être, disons, réaliste et objectif, vous pensez que la question des coûts est une question. Alors, je ne dis pas qu'il faut la résoudre de la mauvaise manière telle qu'on le voit aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un problème de coût quand même ?
Alors, c'est sûr que plus nous vieillissons, plus notre organisme, disons, a des problèmes. Et c'est sûr que le risque maladie augmente à partir d'un certain âge. Mais je crois qu'il faut aussi replacer ce problème économique dans une autre perspective. Les personnes âgées sont des personnes, en tout cas dans nos systèmes, qui ont cotisé au niveau de la sécurité sociale ou des assurances maladie toute leur vie et qui n'ont pas forcément été malades, mais qui ont cotisé. Alors, est-ce que dans une économie qui est juste, est-ce que ce n'est pas quand même juste que ces personnes-là soient aussi soignées ? Thank you.
En écoutant ses commentaires sur l'évolution de la médecine et de ses coûts, on remarque aussi qu'il y a une spécialisation extrême et des spécialistes pour tout aujourd'hui. Ce n'est apparemment plus le monde des généralistes, Josiane Barnéou.
Il y a un aspect qui est extrêmement positif. À l'heure actuelle, nous pouvons faire des diagnostics et des traitements qui sont extrêmement performants. Mais d'un autre côté, c'est vrai que l'être humain est découpé en petits morceaux et chaque spécialiste a son petit morceau, ce qui nuit à l'approche globale de la personne. D'où l'importance souvent du médecin généraliste qui va pouvoir faire la synthèse de ce que les différents spécialistes ont pu dire ou diagnostiquer.
Il a encore sa place, à votre avis ?
Je pense que dans une période, justement, comme nous l'avons vu, de récession économique, le médecin généraliste a sa place. Dans une période de récession économique, probablement ce que nous allons voir de plus en plus se développer, ce sont les soins à domicile. Et qui dit soins à domicile dit nécessité de médecins généralistes ou d'infirmières libérales ou même de volontaires qui vont pouvoir jouer un certain rôle auprès du malade.
Donc c'est une forme de médecine globale, mais aussi de proximité.
C'est une médecine de proximité où je pense le patient, tout en gardant un haut niveau de soins, et aussi un patient qui est gardé dans son contexte familier. Et lorsqu'on a parlé de cette approche globale, des besoins émotionnels du patient, des besoins spirituels, disons que je dirais que c'est un plus par rapport à ce type de réponse à ces besoins.
Donc c'est une médecine plus conviviale en quelque sorte, où on reste chez soi, où on est visité, où l'environnement reste familier. Et puis de l'autre côté de la médecine, c'est tout ce monde hospitalier hyper sophistiqué avec ses techniques d'investigation très sophistiquées.
Bon, il me semble qu'une politique intelligente des soins à l'heure actuelle serait d'arriver à concilier les deux, d'avoir des possibilités de diagnostic très performantes, mais aussi avoir au niveau domicile des équipes ou une équipe qui peut aussi travailler de manière performante.
Je pense à Jésus, puisqu'on parlait de la Bible une précédente fois, qui allait voir les malades chez eux. Il se déplaçait pour aller les rencontrer, on l'appelait au secours dans certaines situations. Donc toute cette réalité très très humaine, le rapport entre le malade et celui qui le visite et veut lui faire du bien est intense. C'est quand même une belle manière de vivre et d'établir des relations sociales.
Alors c'est une belle manière de vivre, c'est une belle manière d'être soigné, mais cela sous-entend quand même au niveau de l'équipe médicale, je dirais une certaine technicité et aussi des choix de pratique. Je dois dire que en ayant travaillé comme médecin généraliste, parfois c'est plus facile pour nous en tant que généraliste d'avoir un patient qui pose des problèmes à l'hôpital que de l'avoir à la maison, simplement parce que d'un côté, disons, je suis tout à fait convaincue que les soins à domicile sont vraiment la réponse, mais je dois aussi être honnête en tant que professionnelle et réaliser que ce n'est pas toujours facile. Mais je crois que nous devons vraiment militer, je dirais, pour une tendance de plus en plus importante par rapport à la médecine à domicile.
Je vous remercie d'avoir le souci d'être mesuré dans ces prévisions et ces visions du monde médical. Mais les techniques d'investigation, est-ce qu'elles sont neutres ou bien est-ce qu'elles posent aussi un certain nombre de questions éthiques ?
Alors disons qu'une technique en elle-même est neutre. Mais qu'est-ce qu'on fait de la technique ? Je crois que Einstein, qui a découvert la fission de l'atome, d'un côté, la fission de l'atome a été utilisée pour la bombe au cobalt, qui a permis de guérir des personnes. Mais d'un autre côté, c'est aussi Hiroshima. Donc ça a tué des personnes. Donc en fait, une technique en elle-même est neutre. C'est ce que l'être humain va en faire qui peut poser des problèmes.
Donc l'éthique est quand même...
Oui, disons que éthique et technique doivent aller de pair. Mais à l'heure actuelle, nous sommes confrontés au problème suivant, c'est que les techniques vont beaucoup plus vite que la législation dans le domaine de l'éthique.
On aurait pu parler plus longuement de la question des techniques et de l'éthique qui leur est liée, mais revenons au médecin lui-même. Son rôle n'est-il pas toujours et d'abord de pourvoir à la guérison de ses patients ?
J'aimerais revenir sur le mot guérison d'un point de vue, je dirais, chrétien. Je crois que très souvent, nous avons cette illusion qu'en tant que médecin, nous sommes à l'origine de la guérison. Je crois qu'il serait beaucoup plus juste de considérer que nous sommes un instrument. Disons que nous sommes un instrument dans le sens où nous faisons un bon diagnostic, nous donnons un bon traitement, Mais en fait, c'est ensuite au niveau du corps de la personne que se produit le processus de guérison. Et nous pouvons éventuellement aller un pas plus loin, qui est le pas de reconnaître la manière dont Dieu nous a créés. Dieu nous a créés avec un processus de guérison à l'intérieur de nous-mêmes. Et pour moi, disons que l'auteur de la guérison est en fait Dieu.
Donc vous seriez assez proche et même disciple d'Ambroise Paré qui disait « je crois, je le pensais, Dieu le guérit ».
Même, disons, avec notre hyper-technicité au niveau diagnostique et hyper-technicité dans nos traitements, je crois que le résultat ultime de la guérison est entre les mains de Dieu.
Et le médecin voit toujours ses propres limites sur le plan technique.
Le médecin voit ses propres limites sur le plan technique. Même, disons, dans des domaines de la médecine qui sont extrêmement poussés, par exemple dans le domaine du génie génétique, disons que chaque fois que l'on repousse un tout petit peu plus les limites de la connaissance, on s'aperçoit qu'on est confronté à quelque chose qui nous dépasse.
Quant à éradiquer la mort, ce qui était encore un rêve apparemment accessible, il y a peut-être encore 10-15 ans, je ne sais pas, c'est encore quelque chose qui fait l'objet de l'espérance du monde médical?
À défaut d'éradiquer la mort, donc je ne vais pas répondre directement à votre question dans un premier temps, on essaye de la contrôler. Disons que c'est un tout petit peu ce que l'on voit. Tout à l'heure, nous avons parlé du problème de l'euthanasie. Disons que l'euthanasie donne un certain sentiment de contrôler la mort. Je choisis le moment de ma mort, je choisis la méthode de ma mort.
Et comme ça, on redevient un petit peu maître de son destin.
De la même manière, l'acharnement thérapeutique.
Donc c'est très illusoire, mais ça donne cette impression.
C'est une illusion, mais cela donne cette impression. C'est quand même moi en tant qu'être humain qui contrôle le moment et ma manière de mourir.
Ces perspectives sont quand même pas exaltantes. Alors peut-on construire l'espoir? Quelles sont les solutions? C'est peut-être des questions sur lesquelles nous pourrions nous arrêter.
Je pense qu'il est important de construire l'espoir, disons un véritable espoir. Je trouve que, comme vous l'avez aussi souligné, si nous brossons le tableau actuel, il y a des choses qui sont positives et il y a aussi passablement de choses qui sont négatives. Nous sommes à la fin du XXe siècle et cette fin du XXe siècle est considérée avec beaucoup de craintes, mais aussi avec beaucoup d'attentes. Et je crois qu'au niveau médical, il y a des points que nous devons savoir utiliser. Nous l'avons souligné tout au long de cet entretien. Un point qui est extrêmement important au niveau médical, c'est l'approche globale du patient. Le patient a des besoins physiques et très souvent, c'est la première chose dont il est conscient. Le patient va venir vers le médecin avec une demande au niveau de son corps. Souvent, on a dit qu'il est plus facile d'exprimer au niveau du corps son angoisse que de l'exprimer en mots. Donc, un des grands besoins à la fin du XXe siècle est une approche globale du patient. Ses besoins physiques, ses besoins émotionnels, ses besoins sociaux, ses besoins intellectuels, ses besoins spirituels. Ensuite, nous avons aussi vu que nous sommes face maintenant à un certain type de malade ou un certain type de maladie qui sont un petit peu des marginaux par rapport à notre société d'aujourd'hui. Nous avons parlé des personnes âgées, des personnes qui sont très âgées. Nous avons parlé de certains types de maladies qui sont rejetées. Nous aurions pu parler de certains handicaps. Nous aurions peut-être pu parler de malades chroniques, des malades pour qui, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de solution. Ensuite, nous sommes aussi face à des maladies pour lesquelles nous n'avons pas de solution à l'heure actuelle. Et par exemple, c'est le problème du sida. Nous sommes aussi face à beaucoup d'angoisse par rapport à la mort. Et les personnes ont besoin d'une espérance par rapport à la mort qui n'est pas basée sur une utopie, mais qui est réellement basé sur une véritable espérance que nous pouvons avoir en Dieu et en Jésus-Christ. Et nous avons aussi vu qu'il y a toute une approche des soins à domicile. Et je crois que nous pouvons nous poser la question quel rôle nous pouvons jouer, soit en tant que médecin, soit en tant qu'infirmier, soit même en tant que personne volontaire par rapport à cette nouvelle dimension de la médecine à la fin du XXe siècle.
Parler de base d'une espérance, et c'est vrai que si on veut qu'une espérance vive, il faut qu'elle repose sur quelque chose. Alors, sur quoi et qu'est-ce que c'est cette base d'espérance qui sera assez solide pour me garantir un passage qui ouvre des horizons et non pas me referme définitivement sur moi-même?
C'est intéressant, en étudiant certaines cultures ou d'une manière générale les différentes cultures ou religions, de voir que la seule culture qui refuse une vie après la mort est la culture qui a des bases humanistes. Pour l'humaniste, à la fin de la vie, c'est la mort et après, il n'y a plus rien.
Donc on était les seuls au monde en Occident avant-gardiste à avoir de telles idées.
La seule, à ma connaissance, la seule culture niant une vie après la mort, donc une notion d'éternité, est en fait la culture humaniste. Et c'est un paradoxe parce que on peut, juste au niveau philosophique, se poser la question, si nous avons ce mot « éternité » dans notre vocabulaire, est-ce que nous pouvons avoir un mot qui ne correspond à rien de réel ? Et je crois qu'il est très difficile au niveau philosophique de penser qu'on a un mot qui ne correspond à rien. Donc, il semble que, de manière absolue, que l'être humain, je vais même enlever le mot « il semble », l'être humain a dans son cœur la notion d'éternité et a une aspiration à vivre l'éternité. Et c'est intéressant, lorsqu'on étudie les religions les plus importantes, de voir que l'enseignement qui est fondé sur la Bible est le seul enseignement qui donne une certitude, alors que nous sommes vivants, de savoir où nous irons après la mort. Et c'est intéressant de voir que dans la mesure où il y a une démarche de réconciliation avec Dieu au travers de Jésus-Christ, il y a une certitude de destinée après la mort. Et ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas si j'ai fait suffisamment de bonnes choses, si j'ai fait suffisamment de bonnes actions, si j'ai fait telle ou telle chose, ou au contraire, si je n'ai pas fait trop de mauvaises choses. Mais c'est simplement, disons, un engagement de Dieu à l'égard de l'être humain au travers de Jésus-Christ. La réconciliation avec Dieu donne à l'être humain la possibilité de savoir où il passera son éternité.
Une démarche de sa part, de Dieu, de Jésus-Christ, gratuite pour nous.
Il y a une démarche de Dieu à notre égard, dans le sens où Dieu nous aime, mais Dieu considère aussi l'être humain comme un être responsable. Et ce qui m'a vraiment toujours touchée, c'est de voir que, en fait, Dieu respecte notre capacité de choix. Et Dieu ne force jamais notre choix. En tant qu'être humain, nous pouvons avoir de l'autoritarisme à l'égard d'un autre être humain. Mais Dieu n'a pas d'autoritarisme à notre égard. Dieu nous laisse la capacité ou nous laisse le choix de choisir ou de refuser la réconciliation avec lui au travers de Jésus-Christ.
Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, côtoyant le malheur,
sans éclat ni beauté, sans rien pour nous attirer, il fut jugé de piètre valeur. C'est sous nos maladies qu'il a daigné porter, c'est sans nos peines dont il s'est chargé. Maltraité, humilié, il souffrit sans maudire, blâmé à tort,
frappé de notre sort.
Les voix de Jean-Michel Beaubrun et Judith Flessel en duo pour cette chanson extraite du Chemin de Pâques, une cantate mise en parole et musique par John Featherstone. Le docteur Josiane Barnéou le disait clairement tout à l'heure, si certains usent d'autoritarisme envers d'autres êtres humains, Dieu, lui, n'a aucun autoritarisme à notre égard. Il nous laisse la liberté de choisir ou de refuser la réconciliation avec lui au travers de Jésus-Christ. Pour terminer ce contre toute attente, nous écoutons encore Céline Dion, La mémoire d'Abraham.
Juste une
ainsi que prend fin contre toute attente aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine émission. Au revoir et à très bientôt.